السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صحابہ کے ذکر میں آج میں دو صحابہ کا ذکر کروں گا.
J'évoquerai aujourd'hui deux compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier s'appelle Munthir bin Mohammed Ansari. Il appartenait à la tribu Banu Jahjaba. Après qu'il s'est établi à Médine, le saint prophète Mohammed a noué un lien de fraternité entre Munthir bin Mohammed et Tufail bin Haris. Zubair bin Awam, Hatib bin Abi Balta'a, Abu Sayra bin Abi Ruhum ont logé dans la maison de Munthir bin Mohammed à Médine lorsqu'ils ont quitté la Mecque. Munthir bin Mohammed avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de l'incident de Bir Maun. J'ai évoqué dans le passé cet incident en relatant la vie de deux autres compagnons. J'en fais mention de nouveau en référence au martyr de Munthir bin Mohammed. Dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à ce sujet. Au cours du mois de Safar, en l'an 4 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une délégation de compagnons sous la direction de Munthir bin Amr Ansari. La plupart étaient des Ansars et ils étaient 70 en nombre. Ils étaient presque tous des Qari, c'est-à-dire qu'ils connaissaient bien le Saint-Coran. Le jour, ils ramassaient du bois pour joindre les deux bouts et ils passaient la meilleure partie de la nuit dans le culte de Dieu. Quand ils ont atteint un lieu connu, sous le nom de Bir Maun, ainsi nommé en raison d'un puits d'eau, le dénommé Haram bin Milhan, qui était l'oncle maternel d'Anas bin Malik, est parti en avant présenter le message de l'islam à Amir bin Tufail, le chef de la tribu Amir. Amir bin Tufail était aussi le neveu d'Abu Bara Amiri. Le reste des compagnons est resté en arrière, car Haram bin Milhan, en tant qu'émissaire du saint prophète Mohammed lui, a rencontré Amir bin Tufail et les membres de sa tribu. Eh bien, ces derniers, par simple hypocrisie, l'ont accueilli chaleureusement. après que Haram bin Milhan s'est assis et s'est mis à prêcher le message de l'islam, quelques infâmes parmi eux ont fait un signe à quelqu'un qui a frappé l'innocent émissaire avec une lance par derrière et il l'a blessé mortellement. Lorsqu'il a été blessé, les dernières paroles de Haram bin Milhan étaient « Allah est le plus grand. Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai atteint mon objectif. » Amir bin Tufail ne s'est pas contenté du meurtre de cet émissaire du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a incité les membres de sa tribu, les Banu Amir, de s'attaquer au reste des musulmans. Mais les membres de sa tribu ont refusé en citant la garantie offerte par Abu Bara. Sur ce, Amir a recueilli les clans Banu Ril, Banu Zakwan et Banu Usayya, membres de la tribu Sulaim. Ces personnes étaient les mêmes membres des clans qui avaient envoyé leur délégation au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, selon un récit de Bukhari. Ainsi donc, Amir a pris toutes ces personnes et s'est attaqué à ce petit groupe de musulmans sans défense. Quand ces infâmes assoiffés de sang les ont approchés, les musulmans ont déclaré « Nous n'avons aucun grief contre vous, nous venons seulement avec le message du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas venus nous battre, mais les infâmes ne les ont pas écoutés et les ont tous tués. » Parmi les compagnons présents, un seul individu a été épargné. Il était boiteux et il avait réussi à grimper au sommet d'une montagne. Ce compagnon s'appelait Kaab bin Zayd. Selon d'autres récits, les mécréants l'avaient également assailli et blessé et ils l'ont laissé pour mort. En réalité, il était encore en vie et il a survécu. Deux membres de la délégation des compagnons s'étaient séparés du groupe afin de faire paître leur chameau. Ils s'appelaient Amr bin Umayya Damri et Mundhir bin Muhammad. Quand ils ont regardé vers leur camp, ils ont aperçu des bandes d'oiseaux qui volaient au-dessus de leur tête. Ayant compris ce signe du désert, ils ont immédiatement déduit qu'une bataille avait eu lieu. Ils ont compris que les oiseaux avaient trouvé de quoi à manger et que quelque chose s'était passé, il y a eu une bataille. Ils sont retournés dans leur camp et ils ont constaté le carnage perpétré par les mécréants. De loin, ils s'étaient consultés sur la démarche à suivre. L'un a suggéré qu'il devrait prendre la fuite immédiatement et retourner à Médine afin d'informer le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son ami a rejeté sa proposition et il a déclaré « Je ne fuirai pas où notre amir Mundhir bin Amr est tombé à martyr. » Par conséquent, il s'est avancé et il est tombé à martyr sur le champ de bataille. Mundhir bin Muhammad était parti faire paître son chameau et il est retourné, il a combattu l'ennemi et il est tombé à martyr en l'an 4 de l'Hégire. Le deuxième compagnon s'appelle Hatib bin Abi Balta. Il appartenait à la tribu Banu Lakham. Il était aussi l'allié de la tribu Banu Asad. Et il portait le nom d'emprunt d'Abu Abdullah. On dit aussi qu'il s'appelait Abu Muhammad. Hatib bin Abi Baltaha était un yéménite. Selon Asim bin Amr, lorsque Hatib bin Abi Baltah et son esclave Saad ont quitté la Mecque pour se rendre à Médine, eh bien, ils ont tous deux logé chez Munzir bin Muhammad bin Uqba. Le saint prophète Muhammad paix soit sur lui avait noué un lien de fraternité entre Hatib bin Abi Baltah et Rukhayla bin Khalid. Selon un autre récit, il avait noué ce lien de fraternité entre Uwaym bin Saïda et Hatib bin Abi Baltah. Ce dernier avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Badr jusqu'au dernier. Le saint prophète Mohammed avait envoyé Hatib bin Abi Baltah en émissaire transmettre une lettre à Makorkis, le gouverneur de l'Égypte, en Alexandrie. Hatib bin Abi Baltah était aussi un des archers du saint prophète Mohammed lui. On dit aussi qu'il était un des meilleurs cavaliers et un des poètes des Qurayshites avant l'avènement de l'islam. D'aucuns disent qu'il était l'esclave de Baydullah bin Hamid et qu'il avait conclu un pacte d'affranchissement avec son maître et qu'il lui avait payé le prix de sa liberté après la conquête de la Mecque. Oumé Salama relate que le saint prophète Mohammed lui avait demandé sa main en mariage par l'entremise de ce compagnon Hatib bin Abi Baltah après la mort de son mari. Selon Anas bin Malik, Hatib bin Abi Baltah a relaté que le jour de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed s'est tourné dans ma direction. La bataille s'était calmée et le saint prophète Mohammed était blessé. Ali présenté au saint prophète Mohammed de l'eau, et le saint prophète utilisait cette eau pour laver son visage. Hatib bin Abi Baltah a demandé au saint prophète de lui dire qu'il avait ainsi blessé. Il a dit, c'est Utba bin Abi Waqas qui m'a envoyé une pierre au visage. Hatib bin Abi Baltah a commenté, « J'ai entendu une voix d'une colline annonçant que vous avez été tué. Et je suis venu, l'âme meurtrie et le corps sans vie, en entendant cette annonce. Où se trouve cet Utba ? » a-t-il demandé. Hatib bin Abi Baltah est parti dans la direction indiquée par le saint prophète Mohammed lui. Et Hatib a pu maîtriser l'infâme. Il s'est battu contre lui et l'a décapité de son épée. Hatib s'est ensuite présenté au saint prophète Mohammed lui avec la tête d'Utba, ses biens et son cheval. Le saint prophète Mohammed lui a offert le butin et il a prié pour Hatib à deux reprises. Qu'Allah soit satisfait de toi, qu'Allah soit satisfait de toi. Hatib bin Abi Baltah est décédé en l'entrant de l'Égypte à l'âge de 65 ans à Médine. Le calife Ousmane a dirigé sa prière funéraire. Selon Mirza Bashir Ahmad Saheb, Makorkis, le roi des Coptes, était le récipiendaire de la troisième lettre du saint prophète Mohammed lui. Selon le deuxième calife de la communauté, Makorkis était la quatrième personne à recevoir cette lettre. En effet, le saint prophète Mohammed lui avait invité vers l'islam différents dirigeants et rois à travers des lettres. Makorkis était le vassal d'Eriaclus, et le dirigeant héréditaire ou gouverneur d'Alexandrie et de l'Égypte. Il était de confession chrétienne, à l'instar d'Héraclius. Jurayj bin Mina était son nom personnel. Ses sujets et lui-même étaient d'obédience copte. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé sa lettre par l'entremise de Hatib bin Abi Baltara. Et cette lettre se lit ainsi.
من محمد عبد الله ورسوله الى المقاقص عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان توليت فعليك اسم القبط يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اللہ نعبد نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں
C'est-à-dire au nom d'Allah le gracieux le miséricordieux. Ceci est de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah à Marcochis, le chef des Coptes. La paix soit sur celui qui suit le chemin de la rectitude. Je t'invite à accepter le message de l'islam, ô gouverneur de l'Égypte. Crois et tu seras sauvé, et ta récompense sera double. Si tu ne crois pas, le péché du refus des Coptes sera aussi sur ta tête, ainsi que le tien. Ô gens du livre, venez à une parole égale entre nous et vous, que nous n'adorions personne d'autre qu'Allah, et que nous ne lui associons point à de partenaires, et que certains d'entre nous n'en prennent point d'autres seigneurs en dehors d'Allah. Mais s'ils se détournent, alors dis, soyez témoins que nous nous sommes soumis à Dieu l'unique. Telle était la teneur de la lettre envoyée par le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hatib bin Abi Balta est parti en Alexandrie présenter la lettre du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans la cour de Marcochis. Marcochis a lu la lettre et il s'est adressé à Hatib sur un tantinet ironique et lui a dit « Si ton maître est un vrai prophète, pourquoi au lieu de m'envoyer la lettre, n'a-t-il pas demandé à Dieu qu'il fasse de moi son vassal ?» C'est-à-dire qu'il soit soumis au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Hatib a répondu, « Ton objection, si elle est valable, s'applique aussi à Jésus. Pourquoi n'a pas-t-il fait la même prière contre ses détracteurs ?» Hatib a conseillé à Marcochis, réfléchis sérieusement sur ce message, car avant toi, un homme avait prétendu être le Dieu suprême ici en Égypte, c'est-à-dire Pharaon. Et Dieu se vengea contre lui en l'infligeant le châtiment qui a été un exemple pour les premiers et les derniers. Tirons donc des leçons. Attention que d'autres tirent des leçons de ta condition à toi. Ayant vu la détermination du Hatib, Marcochis a répondu, nous professons déjà une religion et nous ne la quitterons que si nous en trouvons une meilleure. C'est-à-dire, nous n'allons pas abandonner le christianisme. Hatib a répondu, nous t'invitons vers l'islam, la religion qui a été parachevée par Allah et qui compense toutes les autres religions. Notre religion ne t'interdit pas de croire dans le Messie. Notre religion nous enjoint de croire dans tous les vrais prophètes. Moïse avait donné la bonne nouvelle de l'arrivée de Jésus. De même, Jésus a donné la bonne nouvelle de l'avènement de notre prophète. Marcus a réfléchi à ce propos et il est resté silencieux. Lors d'une autre réunion dans laquelle se trouvaient certains grands prêtres, Marcus a demandé à Hatib, j'ai entendu que ton prophète a été chassé de sa patrie. Pourquoi n'a-t-il pas prié pour que Dieu punisse ses ennemis et pour qu'il puisse vivre en paix? Hatib a répondu à ce sujet. Notre prophète a été contraint à l'exil sans plus. Les Juifs, quant à eux, ont attrapé votre Messie et ils ont voulu tuer votre Messie sur la croix. Or, Jésus n'a pas pu les maudire et il n'a pas pu les vouer à la destruction. Marcus a été impressionné par la réponse rendue par Hatib et il lui a rendu hommage, disant qu'il était un envoyé avisé qui a été délégué par un sage. Marcus a ajouté, « J'ai étudié le cas de ce prophète et j'ai pu constater qu'il n'enjoint pas ce qui est blâmable et qu'il n'interdit pas ce qui est convenable. » Puis il envoya chercher un coffret d'ivoire et y plaça la lettre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il scella la lettre et remit le coffret à une fidèle servante pour qu'elle le mette en lieu sûr. En tout cas, il a fait montre de respect à l'égard de cette lettre. Marcus a fait venir un scribe connaissant l'arabe et il lui a dicté cette lettre à l'endroit du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il a confié à Hatib. Cette lettre se lit ainsi. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, cette lettre est de Marcus, roi des Coptes, à Mohammed, fils d'Abdullah. La paix soit sur toi. Après cela, je dis que j'ai lu ta lettre et réfléchi à son contenu et aux croyances auxquelles tu m'invites. Je sais que les prophètes hébreux avaient prédit l'avènement d'un prophète à notre époque, mais je pensais qu'il apparaîtrait en Syrie et pas en Arabie. J'ai honoré ton envoyé et j'envoie deux filles avec lui. Mes gens, les Coptes, ont ces deux filles en grande estime. C'étaient des filles qui appartenaient à de grandes familles. Et j'envoie aussi quelques présents ainsi qu'une mule pour voyager. Enfin, je prie de nouveau pour que tu aies la paix de Dieu. Ensuite, Marcus a signé la lettre. Il ressort clairement que bien que Marcus traita avec respect l'émissaire du saint prophète et qu'il montra aussi de l'intérêt au sujet de son message, mais il n'accepta pas pour autant l'islam. Selon d'autres récits, il est décédé chrétien. La teneur de ses propos laisse transparaître qu'il s'intéresse certes aux questions religieuses, mais qu'il n'avait pas montré le sérieux nécessaire à ce propos. Pour cette raison, apparemment, même s'il a agi avec respect, il a rejeté l'invitation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les deux filles envoyées par Marcus s'appelaient Maria et l'autre s'appelait Sirine. Et elles étaient toutes deux des sœurs. Comme le disait Marcus dans sa lettre, elles appartenaient toutes les deux à la nation copte, qui était la même nation à laquelle appartenait Marcus. Ces filles n'étaient pas issues de familles ordinaires. Selon la lettre de Marcus, elles étaient très appréciées des coptes. Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit, « En réalité, il semble qu'une ancienne pratique parmi les Égyptiens était qu'ils présentaient des filles qui appartenaient à leur propre famille ou à des familles nobles de la nation à ces invités vénérés avec qui ils souhaitaient renforcer des liens. En tant que tel, quand Abraham est parti en Égypte, eh bien, le chef de l'Égypte lui a présenté une fille issue d'une famille noble, c'est-à-dire Hajra ou Agar. Cette dernière s'est mariée à Abraham, et de ce mariage est né Ismaël, et à travers lui, Agar est devenue la mère de beaucoup d'autres tribus arabes. En tout cas, lorsque les deux filles envoyés par Marc-Christ arrivèrent à Médine, le saint prophète, paix soit sur lui, épousa Maria la copte et donna sa sœur Sirine en mariage au célèbre poète arabe Hassan bin Thabit. Maria est la noble femme qui a donné naissance à Ibrahim, le fils du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il était le seul fils ou le seul enfant qui lui soit né durant son ère de prophétie. Il convient également de mentionner qu'en raison de la prédication de Hatib bin Abi Bantara, ses deux filles étaient devenues musulmanes avant même d'avoir atteint Médine. La mule qui a été envoyée au saint prophète, paix soit sur lui à cette occasion en cadeau, était de couleur blanche. Le saint prophète, paix soit sur lui, l'utilisait souvent et il avait monté lors de la bataille de Hunayn. Hazrat Muslim Maud Aradotalanhu présente d'autres détails sur la lettre envoyée par le saint prophète Mohammed à Marc-Christ. Le texte de cette lettre était exactement le même que celui de l'empereur byzantin. La lettre à l'empereur byzantin disait que le péché de la dénégation de l'islam par les sujets de Rome sera sur sa tête. La lettre à Marc-Christ disait que le péché du refus de l'islam par les Coptes sera sur la tête du Marc-Christ. Quand Hatib Radotanahu atteignit l'Égypte, Marc-Christ n'était pas dans la capitale. Il se trouvait en Alexandrie. Et Hatib est parti en bateau à Alexandrie, où le roi tenait sa cour près de la mer. Il se peut qu'il était sur une île. Étant donné que la cour était sévèrement gardée, il montra la lettre de loin et il commença à parler d'une voix forte. Marc-Christ ordonna qu'on le fasse venir, puis il lut la lettre. Hatib ajouta, « Je jure par Dieu, Jésus a fait plus de prophéties à propos de Mohammed que Moïse n'en a fait à propos de Jésus. Nous t'invitons à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme vous, les chrétiens, vous invitez les juifs à Jésus. Chaque prophète a des adeptes, et les adeptes de ce prophète doivent obéir à leur prophète. Maintenant qu'un prophète est apparu à ton époque pour le monde entier, il t'incombe à toi de croire en lui et de le suivre. Et souviens-toi que notre religion ne te demande pas de renier Jésus ou de lui désobéir. Notre religion demande à chacun de croire en Jésus. Ses illustres compagnons, avec courage et sagesse, se sont acquittés de leurs devoirs religieux. Ils n'avaient peur d'aucun roi, d'aucun gouverneur ou d'aucun souverain. L'on trouve mention du récit de la lettre envoyée à la Mecque par Hatib bin Abi Baltara. Cette lettre était portée par une femme. Dans la lettre, il informait les Mécois à propos de la venue du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, accompagné de ses soldats, s'est mis en route pour partir conquérir la Mecque, Hatib bin Abi Baltara a envoyé une lettre aux Quraïchites par l'entremise d'une femme. Dans son commentaire sur le recueil Bukhari, Sayyid Zainul Abidin Saheb a commenté que l'imam Bukhari avait placé le verset suivant avant de citer ce récit concernant Hatib bin Abi Balta. Ce verset du Saint-Coran se lit ainsi: La tatakhizu adoui wa adouakum awliya. La tatakhizu adoui wa adouakum awliya. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, ne prenez pas mes ennemis et vos ennemis pour amis. Ali radhiyallahu anhu rapporte que le saint prophète, paix soit sur lui, l'envoya en compagnie de Zubair et de Miqdad bin Aswad afin d'intercepter au lieu d'Irak cette femme qui, à dos de chameau, portait une lettre aux Quraïchites. Nous y avons vu la femme, relate Ali radhiyallahu anhu. Nous lui avons demandé de remettre la lettre lorsque nous sommes arrivés en ce lieu. Et la femme a répondu qu'elle n'avait pas de lettre. Nous lui avons dit qu'elle devait nous remettre la lettre, sinon nous allions la déshabiller et la fouiller si elle ne sortait pas la lettre. Elle a sorti la lettre de ses vêtements et nous l'avons présentée au Saint-Prophète, paix soit sur lui. Hatib bin Abi Balta y avait informé les polythéistes de la Mecque à propos de l'intention du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a fait venir Hatib bin Abi Balta. Et il lui a demandé ceci: c'est quoi cette lettre? Et Hatib a répondu: ne tirez pas de conclusions hâtives à mon endroit, ô envoyé d'Allah. Je ne suis pas un des Quraïchites et je me suis joint à eux. Les autres émigrants qui vous ont accompagnés ont des proches à la Mecque par l'entremise desquels ils ont protégé leur maison et leurs biens. J'ai souhaité faire aux habitants de la Mecque une faveur. Je n'ai aucun lien de parenté avec eux et peut-être éprouveront-ils de la considération à mon égard suite à cette faveur de ma part. Je n'ai pas commis cet acte parce que je suis devenu mécréant, apostat ou hypocrite. Je ne souhaite guère retourner à l'incroyance après avoir accepté l'islam. Je ne souhaite point retourner à la croyance après avoir accepté l'islam, je vous en rassure. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui a répondu: tu dis la vérité. Omar, qui était présent, a dit: ô prophète d'Allah, permettez-moi de tuer cet hypocrite. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a répondu: il était présent à la bataille de Badr. D'ailleurs, tu ignores qu'Allah a fermé les yeux sur tous les manquements des vétérans de Badr. Shah Waliullah Saheb écrit à ce propos: selon un autre récit de Bukhari, cette femme était une polythéiste. Ali Abu Marsad Ghanoui et Zubair s'étaient mis à sa poursuite. Elle était à chameau et quand elle a vu que ses poursuivants étaient sérieux, elle a fait sortir la lettre du manteau qu'elle avait autour de la taille. Ses compagnons ont ensuite mené la femme au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Omar a déclaré: Hatib a trahi Allah, son prophète et les croyants. Ô prophète d'Allah, donnez-moi la permission de lui trancher le cou. Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé: n'avait-il pas participé à la bataille de Badr? J'ai espoir qu'Allah a dit aux vétérans de Badr: faites ce que vous souhaitez, le paradis vous est acquis. j'ai couvert vos défauts et je vous ai pardonné. » Omar radiallahu anhu avait les larmes aux yeux en entendant ces paroles et il a déclaré « Allah et son prophète savent le mieux ». Le calife Abu Bakr envoya Hatib au Makorkis d'Égypte et signa un pacte de paix avec ce dernier. Le pacte était valable jusqu'à l'attaque lancée par Amr bin As contre l'Égypte. C'était un pacte de paix signé entre les musulmans et la nation égyptienne. On dit de Hatib qu'il était beau, qu'il portait une légère barbe, qu'il avait le cou pendant et qu'il n'était pas très grand et qu'il avait les doigts larges. Yaqub bin Utba relate que le jour de son décès, Hatib bin Abi Baltara disposait de 4000 dirhams. Il était aussi un vendeur de grains et il avait laissé son patrimoine à Médine. Jabir radiallahu anhu relate que l'esclave de Hatib s'est un jour plaint au saint prophète Mohammed lui à propos de son maître. L'esclave a déclaré « Hatib ira certainement en enfer ». Peut-être que Hatib l'avait qualifié de paresseux. C'est pour cette raison qu'il a émis cette doléance. Le saint prophète lui a dit « Certainement pas. Tu as menti. Il n'ira pas en enfer parce qu'il a participé à la bataille de Badr et il était présent pour le pacte de Hudaybiya. » Hatib faisait son commerce dans le marché. Hazrat Muslim Maud a présenté l'enseignement islamique concernant la fixation des prix en citant ce récit concernant Hatib bin Abi Baltara. Il explique donc que l'État islamique contrôlait les prix à Médine à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, dès lors qu'un gouvernement islamique était en place, il déterminait les prix du marché. Selon les traditions, un jour, le calife Omar se promenait dans un marché de Médine lorsqu'il vit un homme nommé Hatib bin Abi Baltara qui vendait deux sacs de dattes sèches ou deux sacs d'apricots. Omar radiallahu anhu l'interrogea au sujet du prix et il lui répondit qu'il vendait deux mouds, c'est-à-dire deux unités de mesure pour un dirham. Ce prix était moins élevé que le prix moyen sur le marché. Sur ce, Omar lui ordonna d'aller les vendre devant chez lui, car le prix était très peu élevé. Le calife ne souhaitait pas qu'il vende ses denrées à ce prix aussi bas, car cela aura un impact négatif sur les prix du marché. Les gens commenceraient à douter de l'intention des marchands. Ils risqueraient de se plaindre au sujet des autres marchands qui vendaient ces denrées à des prix plus élevés, en les accusant de vouloir les tromper. Le Muslim Aoud écrit que les Fouqaha ont longuement débattu sur ce point. Certains ont même cité d'autres récits, rapportant que par la suite, le calife Omar serait revenu sur sa décision. Mais ils ont reconnu que la décision du calife Omar était nécessaire et importante. Ils ont écrit qu'il incombe au gouvernement islamique de déterminer de façon générale le prix sur les marchés, sinon cela peut avoir un impact négatif sur les mœurs et sur l'honnêteté du peuple. Seuls les produits vendus ouvertement sur les marchés sont concernés par cette mesure. Les marchandises qui ne sont pas vendues sur le marché et qui ont été détenues à titre privé ne sont pas concernées ici. L'islam enjoint que les prix des produits vendus sur les marchés soient fixés afin que les marchands ne puissent pas modifier ces prix à leur guise. Les Fouqaha ont confirmé cela à la lumière de certains récits et de certaines traditions. Il est également du devoir du gouvernement de s'occuper des pâturages et de creuser des puits. Tel est un des devoirs qui incombe à l'État islamique. Une fois, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait ordonné à Hatib de s'en occuper. Selon un récit, au retour de la bataille d'avec les Banu Mustalik, le saint prophète Mohammed passa par un endroit appelé Naki. Il y vit une grande vallée pleine de verdure et de nombreux puits. Et on disait que l'eau de ces puits était excellente. Et les gens rapportèrent que lorsqu'ils vantaient la qualité de ces puits, les puits s'asséchaient. Sur ce, le saint prophète Mohammed ordonna à Hatib bin Abi Balta de creuser un puits et de faire de Naki un pâturage administré par l'État. Le saint prophète Mohammed a nommé Bilal bin Haris Musni comme responsable de ce pâturage. Bilal demanda au saint prophète, paix soit sur lui, ô envoyé d'Allah, quelle surface de ce terrain dois-je convertir en pâturage étatique? Il s'agissait d'une grande vallée et il demanda donc quelle surface de celle-ci doit être administrée par l'État. Le saint prophète répondit, lorsque le soleil se lèvera, lance un appel par une personne à la voix bien portante de Dieu du mont Mokambil. Et toute la zone d'où l'on pourra entendre sa voix sera utilisée comme pâturage pour les chevaux et pour les chameaux des combattants musulmans. C'était là une manière de mesurer les distances. On n'utilisait pas des unités de mesure comme mètre ou kilomètre. L'idée était de placer des gens pour déterminer jusqu'où la voix de cette personne sera perçue afin de démarquer les limites de ce pâturage qui servira aux chevaux des musulmans combattants et à leurs chameaux, des montures qu'ils utilisaient pour accomplir le djihad. Il s'agissait des biens de la Baytul Mal, de la trésorerie et d'un pâturage appartenant à l'État, dédié aux chevaux et aux chameaux des combattants qui participaient aux batailles. Bilal a répondu, ô envoyé d'Allah, qu'en est-il des animaux des autres musulmans? Il y avait de nombreux animaux, des musulmans qui ne combattaient pas et qui se promenaient en plein air. La question était de savoir si ces animaux auraient également accès au pâturage. Le saint prophète a répondu, ils n'y auront pas accès, cet endroit sera réservé aux personnes qui préparent leur monture pour le djihad. Bilal demanda, ô envoyé d'Allah, qu'en est-il de cet homme ou de cette femme âgée qui possède quelques brebis et qui n'a pas la force de les déplacer pour les faire paître? Il y avait des pauvres qui ne possédaient que quelques animaux et il leur était difficile de partir loin pour les faire paître. Certains ne pouvaient pas se déplacer, ils étaient faibles, ils étaient âgés, il y avait des femmes. Le saint prophète répondit, « Ceux-là seront autorisés à utiliser ces pâturages. » Les pauvres, les nécessiteux, les faibles auront l'autorisation d'accéder aux pâturages appartenant à l'État. Ainsi, les propriétés publiques devaient être utilisées pour le bien public uniquement. Les nécessiteux peuvent également en profiter. Mentionnant les qualités de Hatib bin Abi Baltara, l'auteur de l'ouvrage « Siratul Sahaba » écrit ceci. Il était très fidèle et il rendait volontiers service aux autres. Et il disait toujours la vérité. Telles étaient ses qualités. Il prenait grand soin des gens et de ses proches. Avant la victoire de la Mecque, il avait écrit une lettre aux idolâtres envoyée par l'entremise d'une femme. Cette lettre était imprégnée de ces mêmes sentiments de bienveillance à l'égard des proches. Et le saint prophète, paix soit sur lui, l'avait pardonné en raison de cette noble intention et en raison de sa véridicité. Qu'Allah nous permette d'hériter des nobles qualités de ses compagnons et qu'il exalte continuellement leur rang.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر